Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde.
Intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Avec Coach Courbis, Kevin Diaz, merci de nous écouter. Il est 21h05 à Paris, 23h05 ici à Doha, au Qatar, dans le studio RMC. Julien Laurence est toujours à mes côtés et nous a rejoint Flo Germain. Salut Flo.
Salut Nico, salut les gars, salut à tous.
Tu as couvert les conférences de presse aujourd'hui des Néerlandais et des Argentins. Oui, parce que tu es aussi hispanophone. Voilà, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas ta vie privée. Tu es aussi un peu espagnol.
C'est mon seul argument. Aucune compétence journalistique, mais je parle un peu espagnol.
Flo, je rappelle, demain affiche à 16h, premier quart de finale du mondial Croatie-Brésil, sera sur RMC. Et donc à 20h, Pays-Bas-Argentine, attention au piège néerlandais, plus pragmatique et défensif que jamais. Le vrai premier gros test pour les Argentins et pour Léo Messi. Cette question, le septuple ballon d'or peut-il encore élever son niveau face au mur néerlandais? On en débat dans un instant. Flo est avec nous. Dans un instant, les conférences de presse néerlandaises et argentines. Georges Quirino est là également. Salut Georges.
Hola, hola, salut à tous.
Salut Georges. Georges qui voilà.
Que pasa, boludo.
Dans plein concert en fait.
Que pasa, boludo.
Ça y est. Flo, bon, les gars, il est des Argentins, il est devenu
j'ai
argentin.
J'ai pris un mot hier, boludo. Il m'avait échappé celui-là.
Ça veut dire quoi
bah, c'est Georges, hein. Moi, c'est... les traductions, c'est Georges.
Bah, boludo, en fait, c'est genre mec. Tu vois, c'est un truc qu'ils utilisent. Ouais, on va dire en moins sympa, c'est ça, ouais. Mais ils l'utilisent tellement qu'en fait c'est plus utilisé genre mec. Genre en chaque fin de phrase, genre qu'est-ce que t'as, boludo? Ça va, boludo?
Qu'est-ce que t'as, boludo? Magnifique.
Donc on peut pas
c'est le frérot de Juju.
Ouais, c'est le fraté de.
Je sais pas si c'est aussi affectueux que frérot, peut-être. Si, boludo, si c'est pas.
En fait, ça dépend comme tu le dis. Ça dépend comme tu le dis. Si tu dis, mais le vos sont boludo. Là, c'est un peu violent, tu vois.
Ça veut dire espèce d'idiot. C'est ça?
Non, c'est ça.
Peut-être parfois. Georges, notre correspondant à Buenos Aires, je précise, d'où il nous appelle, Georges Quirino. D'ailleurs, demain, ce sera à Lusail, le stade qui accueillera la finale. On a vu 40, 50 000 supporters déjà pour l'Argentine-Mexique. Est-ce que ce sera la Bombonera demain, Flo?
On attend 50 000 supporters argentins. Il y en avait 30...
sur 90 000 places.
Ouais, 89 000 places. Il y avait 35 000 supporters argentins sur la phase de poule. En plus, ils l'avaient annoncé. Hein, c'était les chiffres de l'ambassade ici, donc ils n'ont pas menti. Et ils disaient qu'il y aurait une nouvelle vague si ça se qualifiait. Effectivement, il y en a apparemment qui avaient pris le risque. C'est ce que m'a dit un journaliste. De prendre des places à partir des quarts de finale. Bon, ils ont peut-être eu un petit coup de chaud après le match contre l'Arabie Saoudite, mais a priori, ça arrive. Et effectivement, minimum 50 000 Argentins face à 2 000 Néerlandais. Donc, rapport de force impitoyable en faveur de l'Albicéleste.
C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué, Georges. On parle de pouvoir d'achat, souvent en Argentine, qui est en pleine crise économique. Comment tous ces supporters argentins arrivent à se financer un tel voyage? On traverse quasiment le monde, le coût de la vie ici au Qatar. J'imagine que tu as bossé également là-dessus.
Ouais. Ouais, dans un pays où le salaire minimum n'est pas supérieur à 400 euros, je crois, si on utilise le taux de change, dans un
comme
pays
ici,
à 80%
d'ailleurs.
D'inflation. Donc, en fait, il y a beaucoup de supporters qui économisent depuis 4 ans, par exemple. Moi, j'en ai rencontré avant le début de cette Coupe du Monde. Ça représentait pour beaucoup entre 6 000, parfois même 10 000 euros. Donc, imaginez ce que c'est. Donc, c'est pour ça que la plupart sont logés à 30 km au sud de Doha, dans le lotissement le plus économique de la Coupe du Monde. Je crois qu'ils payent ça 40 euros par nuit, mais pour eux, quand même un coût énorme. Donc, la plupart des supporters argentins avec qui je suis en contact, je peux vous dire qu'ils font pas grand chose sur place. Hein. Ils utilisent le métro parce que c'est gratuit. Ils vont à la plage, ils vont au supermarché acheter 2-3 trucs et ils restent à l'hôtel. Donc, c'est sûr, ils vont pas aller dans le désert avec le 4x4, aller faire des tours en chameau. Donc, ça dépend de ceux qui ont le pouvoir d'achat. Donc, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a des vagues de supporters encore qui sont partis, comme le disait Flo. Ici, on a vu à l'aéroport ces deux derniers jours des centaines de personnes qui partent. Après, ceux qui partent maintenant, je pense que c'est quand même ceux qui ont un pouvoir d'achat assez important. Et parmi les Argentins, il y en a beaucoup qui sont aussi des Argentins qui sont expatriés depuis des années en Europe, dans les pays arabes. Donc, ceux qui ont un pouvoir d'achat un peu plus important. Mais il y en a quand même qui ont un pouvoir d'achat très petit et qui se sacrifient parce que pour eux, ce que je me rappelle, un supporter me disait, c'est un devoir moral d'aller au dernier mondial de Messi.
C'est ça. Mais si justement Van Persie dans un instant peut-il encore élever son niveau face au mur néerlandais, premier gros test pour lui et l'Albi Céleste. D'abord, Flo, tu étais en conférence de presse de l'Argentine, des nouvelles. Il y avait un doute sur Rodri De Paul et sur André Di Maria.
Je pense qu'il y a toujours un petit doute, honnêtement. Alors la conférence de presse, on a vu un Lionel Scaloni un peu agacé parce que la presse argentine hier a sorti une info, ils ont fait leur taf et bravo à eux du fait que Rodrigo De Paul avait une petite gêne à la cuisse. Il a pas aimé, il a même beaucoup insisté en disant non mais on fait quoi là, on joue contre notre camp, on rend service aux Néerlandais en sortant cette info. Non, c'était à huit lots, je confirme rien, etc. Donc un peu agacé. Et aujourd'hui, il y avait un petit quart d'heure ouvert à la presse, le quart d'heure classique. Faut pas non plus se fier uniquement au fait qu'ils étaient là, mais ils étaient là. Di Maria, quand je dis il au pluriel, Di Maria et donc Rodrigo De Paul. En plus, il avait l'air plutôt souriant, plutôt détendu, plutôt bien dans son début d'entraînement, Rodrigo De Paul. Di Maria aussi, lui qui était forfait, on le rappelle, lors du dernier match aussi pour une gêne à la cuisse. Donc, en discutant avec pas mal de confrères argentins, eux pensent qu'ils vont au minimum être dans le groupe. Il y a un peu plus d'espoir même pour De Paul peut-être, qui en plus est un joueur assez important et qui au final n'aurait pas manqué tant d'entraînement que ça par rapport à Di Maria. Donc voilà, petit vent d'optimisme ce soir, mais je sais pas ce qu'en pense Georges, pas sûr qu'il soit titulaire, en tout cas les deux.
Ouais, non, c'est ce qui se dit ici effectivement dans la presse, comme tu l'as dit Flo, Scaloni n'est pas du tout content et ça fait des débats ici en Argentine sur est-ce qu'il faut dire ou pas quand les joueurs sont blessés ou est-ce qu'il maintenant il faut tous être derrière l'Argentine. Il y a des gros débats sur le travail journalistique en fait. Est-ce que les journalistes doivent protéger la sélection ou est-ce qu'ils doivent faire leur travail tout simplement parce qu'ils sont pas des supporters mais ils doivent aussi donner des informations. Les infos qu'il y a ici, les dernières qui tournent beaucoup, c'est que oui effectivement il y a peu de chances que les deux soient titulaires ensemble parce que Scaloni privilégie l'état physique des joueurs, il veut des joueurs à 100%. Si Di Maria n'est pas titulaire, il pourrait même y avoir un changement de système. Ça c'est quand même une information, et jouer à 5 derrière, on sait que Scaloni sur les 4 matchs, à chaque fois qu'ils ont mené au score, ils sont passés à 5 derrière, sauf sur le premier match je crois. Donc en fait le remplaçant de Di Maria pourrait être Lisandro Martinez pour faire une défense à 5.
Calqué sur le système de Lisandral d'ailleurs, ce serait.
Et Lisandro qui connaît bien les Pays-Bas.
Donc 0-0 tir au but quoi, comme en 2014 quoi.
Ouais,
c'est bien possible en tout cas.
Mais en tout cas, c'est la présence de Di Maria et de Paul ici, évidemment, tout le monde croise les doigts pour qu'ils soient au moins disponibles pour ce match-là.
On va savoir ce que Lionel Messi a dans les jambes dans ce duel. Enfin, c'est le premier gros test pour sa sélection et pour lui aussi. Il a alterné le très bon, le bon, le moins bon également. Pas non plus rendre son mondial pour l'instant totalement idyllique. Il a porté l'équipe contre le Mexique notamment. Il est sorti de la mouise, comme on dit. Georges et Flo va m'en parler également. Il m'en a déjà parlé il y a quelques jours après le match face au Mexique. On découvre, nous, un Messi en sélection extrêmement décontracté, qui a l'air plus épanoui que jamais, malgré la pression et immense qui pèse sur lui. Est-ce que c'est ton sentiment également?
Ouais, lui-même l'a dit, il a répété pas mal depuis le début de la Coupe du Monde et dans toutes les interviews avant le Mondial. Messi se sent bien dans ce groupe, même avant la victoire en Copa América. Lui, quand il avait fait une petite pause après le Mondial 2018, après la dépression post-élimination contre la France, et quand il est revenu, lui déjà s'était mis dans d'autres dispositions. Il avait dit dans les interviews que voilà, je me suis dit qu'il faut que je me rapproche des jeunes, il faut que je m'ouvre un peu plus. Il a trouvé en plus un groupe qui on va dire a un peu décroché le poster Messi et se sont rapprochés de lui, des joueurs justement comme Rodrigo De Paul qui sont allés toquer à sa porte pour lui dire tu viens prendre un maté, comme si t'étais un joueur comme un autre finalement. Et finalement ils ont un peu désacralisé Messi, et Messi se sent à l'aise maintenant dans ce groupe là où en plus il faut quand même prendre ça en compte, désormais c'est le plus âgé sur le terrain, à part Armani dans le groupe, le gardien de but, c'est le joueur le plus âgé. Il y a plus des cadres derrière lesquels peut-être lui se cacher, comme Javier Mascherano par exemple qui prenait beaucoup de place dans le groupe. Donc aujourd'hui il se sent vraiment en capitaine de cette nouvelle génération en plus, et on l'a vu sur la dernière Copa América. Évidemment, la victoire en Copa América l'a complètement débloqué à tous les niveaux, avec le groupe et avec le peuple argentin également, où maintenant il y a une connexion absolument incroyable.
Flo, toi qui le suis aux entraînements depuis le début de ce mondial, les conférences de presse, les zones mixtes après match, les matchs, tu m'as dit l'autre jour, Léo Messi, je vois que c'est sa dernière Coupe du Monde, il prend le temps de parler à tout le monde.
On va se fier à ce qu'on voit, parce qu'après on n'est pas dans les secrets toujours du vestiaire, mais moi ce que je vois, au-delà du fait que le match contre le Mexique, je te l'avais dit, on en avait parlé en plus, je crois que tu étais au stade, Nico.
Tout à fait.
J'avais ressenti un truc que peut-être que tu peux ressentir vraiment qu'au stade, c'est ce poids qu'il y avait avant le but de Messi. Donc comme vraiment ce sentiment qu'il a libéré toute son équipe après ce but et que il y a un poids qui s'est enlevé des épaules. Enfin, c'était criant en fait. Juste après le but, c'était plus la même équipe. Tout d'un coup, ça courait plus vite, c'était plus léger, tout allait mieux. Donc déjà, faudra jamais oublier ça, quoi qu'il arrive dans cette Coupe du Monde. C'est Messi qui lance la Coupe du Monde de son équipe. Et après, moi, ce qui m'a frappé en zone mixte, en plus Julien, c'est ce que c'est. Les zones mixtes, elles sont interminables dans cette Coupe du Monde. Je sais pas combien. Enfin, c'est tu vas à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche.
Zone mixte, c'est zone d'interview.
Zone d'interview, pardon.
Les joueurs passés.
Zone d'interview, tu attends les joueurs avec. Faut s'imaginer, je pense peut-être 300 journalistes qui attendent par petits poules en fait, par petits groupes. Les radios qui ont les droits télé, les télés qui ont les droits, les radios qui ont les droits, ceux qui n'ont pas les droits, la presse écrite, les Anglais, les Espagnols. Et il fait l'effort de s'arrêter tous les 4 mètres.
Incroyable.
En fait, il a des repères. Il a une journaliste argentine avec qui il est en confiance, un autre sud-américain, je sais pas s'il est argentin, mais ça se tape une bise, ça fait 3 minutes sur la famille. Il y a aucune question sur le match, mais en fait, ça parle de tes enfants, c'est génial, on les a vus, ils sont heureux. Et lui, il sait ce qu'il faut donner, en fait. Il fait le métier avec le sourire. Et vraiment, quand je dis qu'il s'arrête 15 fois, il s'arrête 15 fois. Ça dure 15 fois 2 minutes, mais c'est un nouveau match qui commence. Et c'est souvent 2 heures après le match. D'accord. Donc le match il se finit à minuit. Moi je te parle de ça, il est 2h du matin heure locale. Et 2h du matin heure locale, il fait ses 45 minutes, il fait sa mi-temps journaliste. Et je pense que ça il ne faisait pas avant. Ouais. Non, mais moi j'ai mes repères, j'ai pris ma perche.
Il est malin.
Moi j'ai une perche.
Oh, Ludo. Non, il est malin, il a sa grande perche. Non. Il est malin, il a sa grande perche, Flo, donc il peut se mettre derrière.
Ouais, exactement. Moi j'ai dit aux Espagnols, je me mets avec vous parce que je vous comprends parfaitement. Il va s'arrêter aux Espagnols en général. Et j'ai
T'as tenté une question ou pas pour l'instant en zone mixte?
Sur Messi, ouais, mais je me suis pris un vent. J'étais un petit peu trop loin. Celui qui m'a. Non, mais celui avec qui ça se passe bien, c'est Rodrigo De Paul. Je sais pas, je crois qu'il aime bien ma casquette. Il m'a fait un petit clin d'œil un jour.
C'est quoi ta casquette?
Je sais pas, j'ai une petite casquette là que
casquette.
Donc il m'a reconnu, voilà,
c'est bien juste à la casquette de l'OM.
Et non, c'est une casquette normale. Et bon feeling avec De Paul. Et justement, si on peut l'entendre, Rodrigo De Paul, il parle de Messi. C'était après le dernier match contre la Pologne. Donc évidemment, il a fait, je pense, son meilleur match du mondial. Mais ça va au-delà ce que dit Rodrigo De Paul sur Messi, sur son ami Messi. Il raconte à quel point il est important pour le groupe.
Le match de Léo?
Que dire? J'ai plus les mots. C'était son 1000e match, il a 35 ans. Le foot est chaque fois de plus en plus puissant physique et il reste toujours le meilleur. Je peux juste l'admirer, le remercier d'absorber toute la pression pour nous laisser jouer, nous, tranquilles. Et pour nous, c'est une immense joie de l'avoir à nos côtés.
Absorber la pression, c'est ça que je voulais qu'on entende. Et Georges, je pense que tu peux confirmer. C'est-à-dire que lui, il absorbe tout ça, cette expérience de 5 Coupes du Monde, la pression médiatique évidemment, et les autres en fait, ils jouent leur rôle de joueur et il sert de guide, mais il sert à absorber cette tension-là. Et franchement, je trouve que les mots de De Paul, ils résumaient bien ce que ressent le vestiaire argentin autour de lui.
Georges.
Ouais, de Paul en plus, c'est son bro, c'est son frère, son frère de sang, son garde du corps. C'est tout ce que vous voulez. Ici en Argentine, on dit que dès que Messi va quelque part, De Paul est forcément pas loin, et c'est comme ça dans le groupe, c'est vraiment son grand ami. Oui, Messi, voilà, ce qu'il répète vraiment depuis des mois maintenant, c'est la dimension de plaisir. Il veut prendre du plaisir, parce qu'à chaque fois la Coupe du Monde, ça a été pour lui un enfer, notamment il y a 4 ans, où justement il avait raté un pénalty face à l'Islande lors du premier match, il s'est traîné ça pendant tout le Mondial, et là il s'est dit, c'est le dernier, mes gamins sont là, toute ma famille est là, je veux leur montrer que je kiffe, et c'est ça que je veux transmettre aux autres joueurs, justement. Il est conscient de la responsabilité, comme tu le disais, Flo, de ce qu'il transmet aux autres joueurs. Donc, en gros, lui veut montrer, regardez, moi, je kiffe. Donc, les autres, si moi, je kiffe, les autres, vous devez kiffer aussi. Donc, je pense qu'il est tout à fait conscient, justement, du rôle qu'il a désormais dans le groupe. Et je pense qu'on va en parler dans quelques instants, Nico, aussi. Exactement. Ce qu'il a fait hier, notamment sur Twitch, montre également le Messi qu'on a aujourd'hui.
C'est ça dont j'avais parlé.
Vas-y, Julien.
C'est ça dont j'avais parlé, parce que les studios chez nous à ESPN sont juste à côté de ceux des RMC où on est là. Et donc, hier, je vais pour faire mon émission. Et là, il y a Kun Agüero qui travaille donc pour nous, pour ESPN Argentina. Et on trouve Kun sur sa chaîne Twitch avec Messi à l'intérieur donc du camp des Argentins, avec Papu Gomez, avec après Rodrigo De Paul qui est venu faire une petite apparition, on a vu Di Maria aussi. Et ça, je pense, Georges, il y a 4 ans, ça se serait jamais passé. Et je pense que aujourd'hui, effectivement, Messi dans cet état d'esprit là, beaucoup plus détendu,
pour deux jours avant un quart de finale de Coupe du Monde, ouvrir les portes comme ça à son grand ami, hein, Kun, c'est son ami, bien sûr. Mais quand même, d'ouvrir les portes comme ça à l'Argentine entière. Et puis après, tout le monde en a profité du côté de ESPN.
Ah, moi, j'ai halluciné quand Georges nous a alerté, regardé sur Twitch, et t'as un Léo Messi comme ça qui est ouvert au grand public. Avec des...
Mais est-ce qu'il a trouvé la touche Moutear, là? Parce qu'apparemment, il y a des questions d'Argentine là-dessus.
Ouais.
Il est pas habitué quand même, Messi, j'ai l'impression.
Non, mais il faut.
On est en train de m'expliquer à peu près.
Les gars.
Ouais, fallait... non, mais en fait, Moutear, c'est quand tu veux, je crois, bloquer le son.
Exactement.
En fait, il y a un échange. Tu vois Messi qui se rapproche de la webcam. Il se prend pleine poire la vidéo, en fait. Et tu sens qu'il galère et qu'il n'a pas l'habitude. Et là, il dit. Enfin, c'est une discussion que tu aurais entre deux copains, évidemment, dont l'un qui n'a jamais l'habitude de l'ordinateur et qui dit mais attends, c'est où la touche
bouton, qu'est-ce qu'il faut faire?
Papy Messi. Non, mais,
moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Julien. C'était inimaginable il y a trop déjà parce que Twitch, ça n'existait pas. en tout cas, pas comme ça. Là, parce que c'est Agüero en plus. Et c'est vrai que même il y a 4 ans, il parlait même très peu à la presse Messi parce que tout l'environnement, même médiatique autour de lui, était même parfois assez hostile. Là, aujourd'hui, franchement, on ne peut pas toucher à Messi. Très clairement, je pense que même s'ils sont éliminés demain, les Argentins, c'est bon, Messi, il a payé sa dette envers les Argentins et tout le monde va le célébrer. Et désormais, c'est une idole ici, très clairement. Pas au niveau de Maradona parce qu'il a fait d'autres choses au-delà du terrain. Mais Messi, il est là désormais. Mais ce qui s'est passé hier, donc Agüero, il faut rappeler, c'est son ami, c'est celui avec qui il a toujours partagé la chambre en sélection. Donc c'est finalement celui qui lui manque aujourd'hui. D'ailleurs, Messi, il n'a pas de partenaire de chambre aujourd'hui, justement, pour montrer à Agüero, regarde mon pote, t'es plus là, mais avec nous, t'es toujours là. Et c'est pour ça qu'il a accepté de faire ce live hier avec Agüero, qui est un streamer aujourd'hui, très clairement sur ESPN notamment. Et écoutez, d'ailleurs, on a sorti un petit échange avec Jimmy Brown pour vous montrer un peu la teneur et l'atmosphère qu'il y avait sur cet échange sur Twitch. Il n'y a aucune information footballistique, hein. Il n'y a rien du tout. Mais il y a juste du lol, on va dire, des vannes, écoutez.
Ça va Léo, t'as fini de manger? Bien sûr. Qui m'aurait dit que j'allais faire ça avec toi? Tu me fais vraiment faire n'importe quoi, Kun. Toi t'appelles juste quand t'as rien à faire. Pour moi le capitaine a raison. Si tu savais, Kun, ils viennent tous faire la sieste dans ma chambre. Il n'y a plus de respect. Tu sais que Papou voulait se faire la coupe de Beckham, mais il ressemble plus à ma tante, Léo. On savait tous que c'était impossible. Comment il peut ressembler à Beckham?
Non mais c'est magnifique. Là je me dis, à quand un Twitch avec Benzema qui appellerait Mbappé?
Ça a duré 40 minutes, Nico. Ça a duré 40 minutes. Il y avait 250 000 personnes.
C'est
300 000 sur Twitch. Et c'était en même temps diffusé en direct sur ESPN Argentina. Donc, je pense qu'il y avait plus de 500 000 personnes au moins qui regardaient ça. Donc, évidemment, hier, tout le monde a parlé de ça. Et c'est même dans tous les journaux aujourd'hui. Ce Messi-là, proche de la nouvelle génération. Hein. Vous savez que, justement, Messi, c'est l'idole des jeunes, ici en Argentine avant tout, et qui n'ont pas connu Maradona.
Jeune argentin.
Et voilà, exactement. Donc, c'est pour ça qu'il.
On va parler terrain dans un instant. Georges, tu restes avec nous, on va parler terrain, on va parler tactique également. Est-ce que ce Messi-là peut se sublimer pour sa dernière Coupe du Monde face aux Pays-Bas de Virgil van Dijk? C'est intéressant, Julien, que tu sois resté là également. Tu vas nous dire comment tu juges ce début de mondial de Virgil van Dijk. Il a démarré comme un diesel. Ouais. Est-ce que ça va mieux maintenant? On en parle dans un instant avec Kevin et coach. Hein, je vous attends également là-dessus sur est-ce que Messi peut se sublimer demain 20h face aux Pays-Bas?
On va enfin parler, Nico, de l'équipe qui va se qualifier en demi-finale ou pas?
C'est prévu après, on va faire les Pays-Bas pendant un bon moment avec toi et Flo qui reste à nos côtés. À tout de suite dans l'After Intégral Coupe du Monde, Paris 21h22, Doha 23h22 sur RMC.
RMC, After Foot, Intégral Coupe du Monde.
Intégral Coupe du Monde.
Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, coach Courbis, Flo Germain à mes côtés également, qui a assisté aux deux conférences de presse néerlandaises et argentines avant le duel demain 20h. Ce sera sur RMC. Julien Laurent est aussi à nos côtés. Georges Quirino, correspondant RMC à Buenos Aires aussi. Messieurs, le terrain désormais, Léo Messi, peut-il encore élever son niveau face au mur néerlandais? Il va falloir monter d'un cran, résister notamment à une défense solide incarnée par le rock Virgil van Dijk. Notamment, coach, est-ce que tu penses qu'on n'a pas encore vu le grand Messi? Est-ce que tu penses qu'il peut monter le curseur d'un niveau encore face aux Pays-Bas?
D'un niveau par rapport à son dernier match, je l'ai vu déjà très très haut le niveau. Donc qu'il maintienne ce niveau-là, puisque tu sais très bien, je vous apprends rien, on monte, mais le plus difficile, c'est quand on est très haut, c'est d'y rester. Et si déjà il fait le même match contre les Pays-Bas que ce qu'on vient de le voir faire contre l'Australie, qui est pour moi inférieur aux Pays-Bas, ça sera peut-être le petit plus qui pourra faire la différence. Parce que si dans ce match-là, il n'y a pas Messi, je suis à 50-50. Avec Messi, je suis à 51 pour l'Argentine et 49 pour les Pays-Bas.
Kevin.
Pour concernant Messi,
tout
ce que je peux te dire, c'est que, alors je ne sais pas si vous le savez, mais aux Pays-Bas, bon ça vous le savez pour le Barça, c'est-à-dire que ce soit Frenkie de Jong, que ce soit tous les Néerlandais, pour eux le Barça c'est vraiment le club avec l'Ajax, presque l'objectif d'une vie pour chaque joueur néerlandais, et c'est des grands fans de Léo Messi forcément, puisqu'il joue au Barça et que c'est le joueur emblématique, presque l'héritier de Johan Cruyff, donc vraiment ils vont le voir comme une idole. Par contre, ils ont bien sûr envie d'envoyer un peu à l'image de ce qu'a fait, de ce que voulait faire en tout cas l'Espagne avec Zidane en 2006. Ça n'a pas fonctionné, mais bien sûr qu'ils ont envie d'envoyer Messi à la retraite, ça c'est clair. Ils vont le faire s'ils y arrivent, avec beaucoup de respect, ça c'est clair, mais ils en ont fortement envie. Et j'ai entendu Frenkie de Jong, j'ai entendu aussi Noppert le gardien ou Louis van Gaal cet après-midi dire que bien sûr que Léo Messi reste le facteur X même à 35 ans de l'Argentine.
Julien,
je pense que la dépendance à Messi est trop importante en fait. Que Emi Martinez par exemple après la victoire contre les Australiens dise mais Messi c'est 99,9% de notre équipe. Je veux bien, c'est un génie, c'est le GOAT absolu, tout ce qu'on veut. Mais à un moment je pense que quand tu vas arriver contre des meilleures équipes que celles qu'ils ont affrontées pour l'instant, comme les Pays-Bas, je pense que cette dépendance que tu as,
ton impact sera moins important sur
forcément. Et après peut-être qu'un Julian Alvarez, peut-être qu'un Enzo Fernandez, ils ont d'autres talents, mais ces talents là sont quand même encore eux-mêmes dépendants beaucoup du travail de Léo Messi. Et je pense qu'à un moment ça aura ses limites. Après ils s'en sortiront peut-être, mais je pense que ça aura ses limites, et à commencer par demain.
Coach, tu voulais réagir ou pas? Je rappelle que Virgil van Dijk sera là. Alors c'est pas tout à fait la zone de Messi, qui parle un peu plus loin désormais. Il va devoir notamment se faire prendre un peu d'espace autour de Frenkie de Jong, qui va faire un travail aussi défensif. Martin de Roon également.
C'est surtout Frenkie de Jong. Hein, Frenkie de Jong, justement, on lui a posé la question. Alors, tu connais bien Messi, est-ce que tu vas lui envoyer un message? Il dit non, j'ai joué avec Messi, mais de là à dire que je le connais assez pour lui envoyer un message cette semaine, non, c'est pas prévu. Mais je pense vraiment que Frenkie de Jong, il va être important parce que c'est le joueur qui arrive à lire les trajectoires. Alors, c'est pas le joueur le plus défensif, mais c'est quand même un des deux milieux de terrain défensifs ou un des trois milieux qui sont là pour aussi enclencher les pressings, sortir, et c'est lui qui va devoir prendre en sandwich Messi avec Virgil van Dijk notamment et Nathan Ake ou Timber. Moi j'ai lu aussi qu'on pourrait demander à Timber, je ne sais pas, c'est pas une info, mais j'ai lu qu'on pourrait demander à Timber de faire presque un marquage individuel. Timber, il a 20 piges et il court partout quoi.
Ouais, c'est aujourd'hui il a été questionné là-dessus le sélectionneur néerlandais Louis van Gaal, et il a pas voulu aller au bout de la réponse, mais on a compris entre les lignes qu'il y avait un plan qui se préparait et que évidemment ça concernait Léo Messi, parce qu'en plus évidemment la question était sur Messi. À tel point que derrière Lionel Scaloni, parce que les conférences de presse elles se font ainsi, qu'il y a d'abord la conf des Pays-Bas et dans la même salle souvent la conf de l'adversaire, donc l'Argentine. Et Lionel Scaloni directement a été le sélectionneur argentin questionné sur le fait qu'il y aurait sûrement un plan anti-Messi qui se préparait, et lui il dit de toute façon on s'y prépare. On est habitué au fait que les équipes adverses veuillent museler d'abord Lionel Messi, donc il y a quand même dans l'air cette sensation qu'il se prépare quelque chose. Et il y a même eu un petit sourire de Memphis Depay quand la question a été posée, qui trahissait le fait qu'il y avait quelque chose qui se préparait depuis bossé, 3-4 évidemment. Jours. Je serais pas étonné que tu dises qu'effectivement il y a un plan. Ça m'étonne pas plus que ça.
Ce qui est drôle, c'est que Louis van Gaal, donc on lui a demandé aussi, c'était il y a deux jours, bon alors qu'est-ce que vous allez faire pour arrêter l'Argentine et Messi? Et tu vois, tu parlais tout à l'heure de la presse argentine, et lui il a répondu non mais en fait et c'est ce que disait le coach tout à l'heure pour les Anglais, mais moi je vais absolument pas vous dire ce qu'on va faire pour arrêter Lionel Messi, puisque j'ai envie que les Pays-Bas gagnent. Donc et je pense qu'on va gagner. Vous connaissez Louis van Gaal, lui il est toujours certain qu'il va gagner, et donc je pense que ça va être une grosse bataille tactique quand même.
Mickaël est avec nous, 32-16, supporter de l'Argentine. Salut Mickaël.
Bonsoir Nico, bonsoir coach. Bonsoir.
Bienvenue sur RMC.
Salut Mickaël.
Merci.
Alors, raconte-moi, est-ce que tu crains que Messi se heurte à la puissance athlétique néerlandaise demain et à ce plan dont parlait à l'instant Flo Germain?
Non, parce que c'est ce qu'on a essayé de faire pendant quasiment toute sa carrière. Donc Messi a quand même...
Oui, mais il a plus 27 ans. Hein. C'est ça aussi le sujet, Mickaël.
Non, il a plus le même âge, mais il est quand même capable, et c'est ce qu'il a montré depuis le début de la compétition, où même s'il a été très bon contre l'Australie, mais moi sur les matchs d'avant, je le trouve pas quand même sensationnel dans le contenu, dans la durée de son match. Mais à l'instar, alors même si c'est un profil maintenant complètement différent, mais à l'instar de Kylian Mbappé chez nous, ce type de joueur, la problématique, elle est même pas tant dans le fait qu'il soit bon pendant 90 minutes, elle est dans le fait qu'il suffit d'une ou deux fois dans le match pour qu'il puisse être décisif, et c'est ce qui s'est passé un petit peu depuis le début de la compétition. Donc après, moi quand je vois les Pays-Bas, je vois une équipe qui a concédé beaucoup d'occasions contre le Sénégal, beaucoup d'occasions contre l'Équateur. Le match du Qatar c'était un petit peu différent, et beaucoup d'occasions contre les États-Unis. Donc effectivement, ils n'ont pas pris beaucoup de buts, mais les situations, si c'est Messi qui les a, je pense que ça peut être dangereux pour eux.
Non, puis dans tous les cas, les coéquipiers de Messi sont habitués aussi que s'il y a une équipe, ce qui est tout à fait logique, qui se méfie de Messi, ben eux, ils peuvent en profiter. Et quand bon, je vois aussi là, on parle des plans anti-là. Bah, les plans anti-Messi, ça sera quoi? Le laisser tranquille jusqu'aux 30 derniers mètres et aux 30 derniers mètres, avoir un gars qui l'attend dans sa zone pour le prendre au marquage individuel.
Attention, quand il y a aussi un plan anti-Messi, et ça, Van Gaal en a parlé, avec le ballon. C'est-à-dire qu'il a dit, on sait par contre que Messi, c'est quelqu'un qui ne défend pas, et ben nous, on va attaquer là où il ne défend pas.
Pour être honnête, il y a un truc qui m'a frappé pour avoir fait là tous les matchs de l'Argentine depuis le début de la Coupe du Monde. Je trouve que globalement, les adversaires sont peut-être même trop respectueux de Lionel Messi. J'ai vu très peu de fautes sur Messi. Et sur les matchs qu'on a vus des Pays-Bas, moi j'ai l'impression qu'ils vont un peu plus lui rentrer dedans. C'est un peu plus le profil, aller venir chatouiller les chevilles et faire comprendre que ce soir ça va pas passer comme dans du beurre. Donc j'ai l'impression quand même que là-dessus va y avoir un nouveau cap pour Lionel Messi, c'est de tomber face à une défense qui va pas hésiter s'il faut à mettre 2-3 coups qui vont bien.
Tu as certainement raison, Flo, avec un Messi qui dans son registre est aussi un bon comédien. Et ça fait partie du boulot. Et voir un Messi accentuer une intervention un peu athlétique et faire prendre un carton jaune à celui qui est dans sa zone et qui a la responsabilité justement de s'occuper de Messi, attention aussi que ce jaune ne se transforme pas après en rouge.
Merci Mickaël d'avoir fait le 32-16. Merci à toi, tu reviens quand tu veux sur RMC. À très vite. Je remercie également Georges Quirino Chavez. Merci Georges. Évidemment, tu seras sollicité demain sur RMC à nouveau.
Il n'y a pas que Messi.
Oui, il n'y a pas que Messi.
C'est Julian Alvarez qui sera décisif.
Et souvenez-vous que l'Argentine a gagné la finale de la Copa América contre le Brésil sans un bon Messi, avec un Messi muselé. Ils ont quand même réussi à réagir. Et contre le Mexique, Messi n'était pas aussi à la hauteur. Et c'est le collectif qui l'a sauvé. Donc, moi, je trouve qu'on dit beaucoup qu'il est mal accompagné. Et je trouve qu'il n'est pas si mal accompagné.
Alors, je ne suis pas d'accord avec Quirino. S'il n'y a pas la fulgurance de Messi avec un expédit de goal très très bas,
ça fait zéro. Moi, je pense que la clé demain, c'est Rodrigo De Paul. S'il n'est pas à 100%, il ne pourra pas faire tout le taf derrière Messi pour lui libérer de l'espace et pour lui amener les ballons. Et là, ce sera un vrai problème.
J'insiste sur le fait que ce que va faire Messi ou pas faire Messi, on va le suivre attentivement. Mais rien que la présence de Messi pose un problème à tous ses adversaires et pose un problème, mais un problème sympathique à ses 10 coéquipiers.
Merci Georges, très bonne soirée à toi. Demain sur RMC bien sûr dans l'avant-match, dans l'après-match Pays-Bas-Argentine. On parle de Pays-Bas dans un instant justement. Kevin, coach, reste bien sûr à nos côtés jusqu'à 22h. Flo Germain aussi, Julien Laurence également. Un petit mot de Van Dijk dans quelques secondes. Vous écoutez l'After intégral Coupe du Monde sur RMC. Il est 21h34 à Paris, 23h34 ici à Doha au Qatar. Vous pouvez nous appeler au 32-16. À tout de suite.
RMC After Foot, intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Avec Couche Courbis, Kevin Diaz, l'After intégral Coupe du Monde sur RMC, 21h37 à Paris, 23h37 à Doha, en direct du studio RMC. Flo Germain à mes côtés encore, Julien Laurence aussi. Messieurs, les Pays-Bas après l'Argentine, après Léo Messi, la vie tranchée de Kevin Diaz, vous le savez, c'est notre sélection, c'est notre dépendance à Kevin. Il y a la France, il y a le Portugal et il y a aussi les Pays-Bas. Et si Louis Deschamps faisait enfin gagner les Oranges, jingle la vie tranchée Kevin Diaz.
Tu sais, un footballeur, c'est comme une poterie. Si, au début, elle commence par être déformée, mais pour la reformer, c'est impossible, elle a séché, c'est terminé.
T'as séché vite, toi. Hein ? Non ?
Voilà. Mythique. Julien Laurence se marre ici en direct du studio de
Dubaï. Magnifique, encore une masterclass de Kevin Diaz.
T'as déjà vu le film Ghost, Kevin ? Oui, tu l'as vu aussi, bien sûr.
Bien sûr, quand même.
Bah, il est magnifique.
Ah, coach aussi, t'as aimé.
Coach,
ah
bah, j'adore. Ouais,
la scène avec Demi Moore qui fait une poterie, c'est superbe.
Rien que la musique.
La musique,
c'est souvent la réussite d'un film, et ben là, c'est y a tout. Il y a le film avec cette musique.
Exactement. Revenons aux Pays-Bas. Et si Louis Deschamps Van Gaal faisait enfin gagner les Oranges, Kevin, pourquoi tu l'appelles ainsi ?
Bah, déjà, je l'appelle ainsi parce que après leur huitième de finale, c'est vrai qu'à la mi-temps, je m'étais fait la réflexion. Je sais plus si c'était sur Twitter ou sur mon compte Instagram, disant que cette équipe, elle me faisait penser un petit peu à la France 2018, c'est-à-dire que c'était pas l'équipe la plus flamboyante, mais ils étaient quand même assez solides défensivement et surtout ils avaient de la qualité offensive pour marquer des buts. Et juste le soir même, j'ai vu que Pierre Van Hooijdonk, qui est aujourd'hui, donc vous rappelez bien sûr, le grand attaquant du Feyenoord Rotterdam notamment, qui est aujourd'hui consultant pour la télé néerlandaise, avait dit que oui, il fallait accepter, c'était pas ce qu'on préférait, mais que l'équipe des Pays-Bas était aujourd'hui une équipe de contre, et il a fait la blague en disant que si Louis Deschamps, donc Louis van Gaal en mode Didier Deschamps, si Louis Deschamps nous amenait et nous faisait gagner la Coupe du Monde de la sorte, et bah écoute, on prenait. Et j'ai trouvé ça assez drôle parce que finalement c'est un peu ça les Pays-Bas. Ils ont été flamboyants pendant des décennies, ils ont jamais gagné le titre suprême, ils ont quand même fait 3 finales de Coupe du Monde pour un pays de 16 millions d'habitants, c'est pas mal. Et derrière, s'ils venaient à la gagner avec l'équipe qui joue peut-être le moins au football ou qui refuse le plus le jeu, qui n'a pas la possession, etc., ce serait quand même un sacré pied de nez pour l'histoire. Et j'ai entendu aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, que ce soit Noppert, le gardien, Frenkie de Jong, et aussi bien sûr Louis van Gaal, il y a quelque chose qui se dégage de cette équipe, c'est que certes, ils sont pas flamboyants, même s'ils l'assument pas vraiment, mais il y a une très très bonne ambiance. Il y a une très bonne ambiance. J'ai vu pas mal d'images. Il y a 2 jours, ils ont loué un bateau un peu à la néerlandaise. Ils ont fait le tour du golfe là-bas. Ça avait l'air de vraiment bien se passer. Tu vois, il y a eu des fois des petites tensions entre les générations, entre des fois même, disons, les origines. Mais là, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit le cas. Tout le monde s'entend bien. Et surtout, il y a un énorme respect pour la figure de proue et la star de cette équipe, qui bien sûr est Louis van Gaal. C'est quelqu'un, comme disait Frenkie cet après-midi, qui a une autorité naturelle, mais qui est là, voilà, il est pas là en mode sergent, il veut être respecté, il veut qu'on respecte son plan de jeu, mais il laisse quand même des libertés aux joueurs. C'est une figure emblématique du football néerlandais, mais je pense vraiment qu'il est très aimé par ses joueurs. On sait que Memphis, c'est quelqu'un qui l'apprécie. On sait aussi que ce sera, voilà, son dernier mondial. Derrière, c'est Koeman qui va prendre la suite, avec peut-être d'ailleurs le même plan de jeu. Et donc c'est pour ça, pour une fois qu'ils sont pas favoris, ils ont pas grand chose à perdre, et je pense que ce rôle d'outsider leur convient assez. Ils ont envie de faire fermer des bouches, comme dit Kylian Mbappé au pays, et surtout je trouve quand même qu'ils ont du talent, pas à tous les postes, hein. Moi je continue de penser que ce sera difficile d'être champion du monde avec Daley Blind et Davy Klaassen titulaires, mais bon, pour l'instant ça marche. Demain, encore une fois, ils ont pas beaucoup de pression. Donc advienne que pourra.
Mais avec ça, Van Gaal, on le trouve. Vas-y, coach.
Avec la récupération de Memphis Depay qui monte en puissance, puisque c'est une des phrases à la mode, mais lui il monte en puissance pour de bon. Et avec ce duo Gakpo Memphis Depay, tu as déjà derrière ça peut-être pas 8 coéquipiers plus un gardien de but, mais 5 ou 6 coéquipiers que je trouve quand même très très bon. J'attends avec impatience ce match parce que je maintiens ma position 50-50, mais 51-49 parce qu'il y a Lionel Messi. Mais attention, Memphis Depay a apporté du talent, et voir par exemple le pays de Galles, les Pays-Bas ne pas marquer demain au moins un but, je me l'imagine même pas.
Et sachant que Louis van Gaal a un peu blagué en disant, vous avez vu le Brésil un petit peu après, si jamais vous arrivez à passer l'Argentine, il a dit, ouais, bah d'ailleurs, j'ai vu le Brésil. Bon, franchement, le Brésil, ils jouent comme nous, hein. Ils sont bien en place et ils sortent en contre.
Oui, mais ils se régalent. T'as raison, c'est Coupe du Monde jubilé avec de l'ambition quand même. On l'a vu, van Gaal, sur les vidéos internes de la sélection, rentrer à l'hôtel, danser avec Memphis Depay notamment. Il a dit, hein, c'est un bonus pour lui aussi. Il est venu rendre service au football néerlandais. Il n'avait pas prévu, dans sa fin de carrière, de reprendre la sélection. Et puis, on rappelle aussi qu'il a souffert d'un cancer de la prostate, il l'a dit, il a expliqué quelques jours avant cette Coupe du Monde. Dans un instant, Flo, tu vas nous parler.
C'est une revanche aussi, les gars. Dernière chose que je voulais dire, c'est que c'est une revanche de 2014.
Tout à fait. Pour lui, Louis van Gaal, on en parle dans un instant. Le nouveau Louis van Gaal, très décontracté, très philosophe. On parlera, c'est promis. Ça fait 3 fois que je le dis, de Virgil van Dijk. Hein, je veux qu'on en parle avec toi, Julien, aussi. Il sera clé demain dans ce duel face à l'Argentine. Vous écoutez l'After, Intégrale Coupe du Monde sur RMC. Kevin Diaz, coach Courbis, Flo Germain et Julien Laurence, 21h43 à Paris, 23h43 à Doha. Tout de suite.
RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Coach Courbis, After Foot Intégral Coupe du Monde sur RMC, 21h47 à Paris, 23h47 à Doha. Nous sommes en direct du studio RMC ici au Qatar avec Flo Germain et Julien Laurence. Également, on parlait de ce Pays-Bas Argentine. Demain sera sur RMC, bien sûr, coup d'envoi à 20h avec Flo Germain qui sera au commentaire. Quelle Coupe du Monde, Flo, avant ton retour en France dans quelques heures.
C'est un beau match celui-là.
C'est un beau match pour terminer ce ton mondial. Louis Van Gaal, on en parlait avec Kevin, c'est intéressant, on le disait, il a été appelé par la fédération, c'était pas prévu, il a pris les rênes, c'est du bonus pour lui, on l'a dit, il est venu rendre service et tu l'as rencontré aujourd'hui en conférence de presse, très décontracté comme depuis le début de ce mondial.
Oui, et puis ce qui est bien, c'est qu'on découvre des personnages, moi je l'ai rarement vu et j'étais un peu sous le charme en fait, c'est du charisme et effectivement un personnage qui a fait de l'humour pendant 15 minutes, très détendu en conf de presse, quelques petites blagues, on va l'entendre notamment sur même les questions qui fâchent, il avait le sourire. La question qui fâche, c'est celle de Di Maria, c'est ressorti comme ça, Julien va en parler mieux que moi, mais on a ressorti une petite phrase de Di Maria qui avait estimé que très clairement Louis Van Gaal c'était le plus mauvais coach qu'il ait eu l'occasion de connaître dans sa carrière, parce que même après un match où il y avait un but et une passe décisive, bah, il le prenait à part uniquement pour lui montrer ce qu'il avait fait de mal pendant la rencontre. Il a été questionné là-dessus, écoutez la réponse plutôt avec une touche d'humour du sélectionneur des Pays-Bas.
Angel Di Maria is gewoon een hele goede voetballer.
Angel Di Maria, c'est un très bon joueur de foot. Il a eu des soucis personnels quand il était à Manchester. Il a dit que je suis le pire entraîneur qu'il ait connu. C'est triste qu'il ait dit ça. C'est la première fois que j'entends une telle chose. Ici, à mes côtés, j'ai un joueur avec qui j'ai aussi pris des décisions difficiles. Mon Memphis, ça n'a pas toujours été rose à Manchester. Je ne l'ai pas aligné dans cette demi-finale contre l'Argentine en 2014. Et maintenant, on s'embrasse. On s'embrasse sur la bouche, même s'il faut. Non, tu ne veux pas, Memphis ?
Ça sera mon idole, hein ?
La petite touche d'humour, c'est vrai qu'il a parlé, Kevin, du Brésil, ça a beaucoup plu parce qu'il a dit non mais attendez, on a quoi envie au Brésil, nous c'est une équipe de contre le Brésil, ils sont solides derrière et puis après ça jaillit, bon ok il y a du talent devant mais bon en gros pas de jalousie par rapport au Brésil, et puis il a eu cette petite phrase toujours dans le côté un peu détente, c'était à la fin, on lui demandait ce qu'il allait faire justement après cette Coupe du Monde, est-ce qu'il allait entraîner ailleurs, lui il a dit écoutez moi je suis jeune, je suis encore beau, je suis radieux, 71 ans, je suis ouvert à tous les projets et s'il y a une autre équipe à prendre en tant que sélectionneur, bah allons-y. Donc ouais, je l'ai trouvé sympathique et honnêtement.
C'est comme l'homme qui ne souriait jamais.
Naïvement, je m'attendais pas à ça.
Changement complet, ouais.
Je m'attendais pas à ça et je suis ressorti, ouais, plutôt conquis de la
sympa. Vas-y, Kevin, après, coach. Non, j'ai entendu l'ancien entraîneur de Fortuna Sittard, qui était encore entraîneur l'année dernière, qui est un jeune entraîneur, qui racontait très rapidement dans un podcast super qu'il a été voir Louis Van Gaal, il a demandé un rendez-vous par mail, il a été le voir, il est resté au Portugal, Louis Van Gaal habite dans le sud du Portugal, il est resté une journée avec Louis Van Gaal. Il a dit au début, il m'a pas trop parlé, il m'a jaugé, il m'a laissé parler. Et après, il m'a enchaîné de questions. Et au final, c'est moi qui ai fait que parler. Mais t'apprends parce que le mec, c'est un puits de football, c'est un puits de science. Il est exceptionnel. Et j'ai trouvé ça incroyable. En fait, le mec, il a parlé avec un inconnu pendant une journée de football. Et c'est un vrai passionné.
Coach, ton regard sur Louis Van Gaal, son évolution également, et puis tout ce qu'il a fait pour le foot néerlandais et pas que. Hein.
Ah ben, beaucoup de respect. Et c'est vrai que, en plus de ça, s'il a envie. Contrairement aux dernières années où il n'était pas toujours sympathique, mais s'il a envie d'être sympa, des choses à te raconter, mais il doit en avoir des centaines et des centaines, et ça doit être passionnant. Donc c'est sûr que c'est un gars qui a quand même fait une carrière très très intéressante, avec en plus de ça la connaissance du football, des recherches tactiques pour être un petit peu avant les autres dans certains secteurs. C'est un gars qui laisse pas indifférent, ça c'est sûr.
Di Maria, il fait allusion forcément à sa saison à United, c'était en 2014-2015. Ouais, juste avant de venir au PSG, c'était une horreur pour lui.
C'était si chaud que ça alors.
Ouais, c'était très chaud. À part le match contre Leicester, si je me rappelle bien, où il met un but fantastique, Di Maria en contre, il lobe le gardien avec une petite louche fantastique. Mais c'est le courant jamais passé. Tu sais, comme tu peux avoir parfois avec un entraîneur et un joueur, surtout un joueur star qu'ils avaient recruté 70 millions d'euros, qui sortait du Real Madrid en plus, qui avait eu Carlo Ancelotti, enfin qui avait une entraîneur avec une philosophie
qui fait une saison 2014 exceptionnelle avec le Real,
bien sûr, au milieu de terrain. Et là, tu passes de ça à Van Gaal et de son exigence et de sa froideur, parce qu'à l'époque, c'est pas le Van Gaal que t'as vu toi, Flo, ici. Hein. C'est un Van Gaal qui est très dur, qui est très strict. Et même pour qui ça marche pas très bien à United. Et en fait, je pense qu'il s'est servi aussi de Di Maria un petit peu comme un exutoire. Et en plus, Di Maria. Ouais, non, et puis Di Maria, ce cambriolage qui lui retourne la tête.
Il en a parlé aujourd'hui.
Traumatisme. Voilà. J'accueille Nazim au 32-16. Salut Nazim.
Salut Nico, l'after de l'élégance. Salut coach, salut Kevin. Salut.
On est un peu moins élégant à Doha, je vais pas te mentir. On est en short, t-shirt. On recycle les derniers vêtements propres qui restent dans la valise.
Touche parce que j'adore le week-end là, quand tu faisais les émissions, que tu as commencé l'after de l'élégance, c'était super.
Merci beaucoup Nazim.
Moi je voulais dire que il faut faire attention aux Pays-Bas parce que mine de rien, personne parle trop d'eux. Et j'ai trouvé très fluide, très bon quoi. L'Argentine m'a pas impressionné. Ils ont galéré contre l'Australie un petit peu quand même. Donc, je sais pas. Je trouve qu'ils sont quand même assez forts. Ils ont le meilleur défenseur central du monde. Donc, ça, quand même, ça compte. Et puis, bon, Depay, il est en forme.
C'est intéressant. Tu considérerais, Kevin, tiens, et Julien, que Van Dijk est aujourd'hui encore le meilleur défenseur central du monde.
Ah, moi il y a match avec Marquinhos notamment qui est quand même énorme aussi même s'il est un peu critiqué au PSG. Il y a quand même 2-3 défenseurs, Ruben Dias qui est aussi excellent, etc. Mais Van Dijk, franchement, c'est cette blessure qu'il a un peu vraiment, forcément c'est une grave blessure, mais juste pour aller dans le sens de Nazim, dernière Euro, franchement, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui donnaient l'Italie gagnante? Je suis pas sûr. Ensuite, la Coupe du Monde 2018, est-ce que beaucoup de gens avant la compétition donnaient la France? Pas sûr. Et la compétition d'avant, le Portugal en 2016, absolument personne. Donc, écoute, pourquoi pas.
Et là, on
les
attend moins que d'habitude en plus.
Et ouais, pourquoi pas.
La parole.
Effectivement, Nazim. Tu veux rajouter quelque chose, Nazim?
Je kiffe votre émission. Kevin, continue avec les anglicismes. Je trouve que c'est important parce qu'en France, on galère sur l'anglais, on est nul.
Mais on a une belle langue, le français. You're right. C'est mon combat avec Kevin.
You're right, bro. But Nicolas, Jamini don't like it, so yeah, we know.
Wow. It doesn't like it, d'ailleurs.
Doesn't like it, c'est ce que j'ai dit.
On va réécouter les potes.
Je vais juste une petite info.
Vas-y, Flo.
Parce que tout à l'heure, on avait le débat avec Kevin et coach, notamment sur peut-être un plan anti-Messi, etc. C'est qu'il y a quand même plusieurs joueurs qui seraient suspendus en demi-finale s'ils prennent un carton jaune, et Frenkie de Jong en fait partie. Donc au milieu de terrain, il y a De Ligt aussi, Nathan Ake et Kop Meiners.
Bien joué, je sais pas si la prononciation est bonne.
Mais ça peut être important parce que quand tu veux aller au bout, bah peut-être que tu y penses et tu te dis attention, si je prends mon jaune, je joue pas la demi-finale. Donc voilà, dans les duels, ça peut jouer.
Et ce sera avec Flo au commentaire demain sur RMC à partir de 20h au stade de Loussa. Et tiens, dernière info que je voulais vous donner tout à l'heure, je la donne maintenant, ça va t'intéresser, Julien Laurence. Robbie Williams va donner un concert privé à la sélection anglaise avant le quart de finale.
Ah bah là, on est sûr de gagner là.
Pas la classe.
Si. Alors ça, vive la France.
Les Anglais, ce sera ça.
Incroyable. Mais en plus, par rapport à cette génération-là, peut-être Harry Kane.
Ne connaissent encore... pas, c'est leur Michel Sardou à eux.
Ça peut rien dire. Exactement, Michel Sardou, ça, c'est une très bonne image.
Ouais, nous,
pour finir.
C'est nul aussi, hein.
T'as raison. Et nous, ce sera ça, écoutez. Nous, Français. La dernière composition, coach Gilbert Montagnier pour l'équipe de France.
Gilbert Montagnier, quand même.
Mais attends, on n'a pas des contraires.
On se moque pas.
Déjà que vous êtes trompé sur mon dozen.
Coach, t'es plutôt Gilbert Montagnier ou Robbie Williams?
Les deux,
voilà, tu peux pas avoir de problème.
Et Ghost aussi.
Et Ghost en plus de culte désormais.
Ah ben attends. Tu me mets ça avec qui était une fois l'Amérique et je suis content.
C'est magnifique. Merci. Merci Nazim. On a fait le 32-16 également. Merci coach. Merci. Salut. Kevin. Flo, bonne soirée à
ciao,
toi.
Ciao.
Bon match demain. Tu seras à l'antenne pour Pays-Bas, Argentine. Merci Julien d'avoir fait les deux heures avec nous. On s'est régalé. La suite de l'after, c'est maintenant avec Gilbert Bribois, bien sûr, Daniel Riolo. L'after jusqu'à 1h du matin avec la libre antenne à partir de minuit. Vous écoutez l'after intégral Coupe du Monde. Il est 21h56 à Paris, 23h56 à Doha, au Qatar. La soirée continue sur RMC.
C'est pour toi qu'il y a, mais...
RMC, After Foot.
Intégrale Coupe du Monde.